Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne, donné par notre invité spécial. On espère que ce message t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Ce matin, j'ai la joie de pouvoir contribuer, apporter ma pierre à l'édifice de cette série que vous avez commencé la semaine passée sur le livre de Josué, une série que vous avez appelée « Un cœur entier ». La semaine passée, Cindy a porté la parole, parole extraordinaire, très bonne parole pour introduire la série et elle a posé le décor, elle a montré un petit peu comment, dans quel contexte en fait la conquête se passait. Et elle a parlé notamment du fait qu'Israël, ça fait 40 ans que maintenant ils tournent dans le désert et ils entrent en terre promise, ils entrent dans la promesse. Et au même moment qu'ils entrent dans la promesse, ils vivent un deuil. Ils vivent le deuil du leader qui les a conduits, qui les a libérés, qui les a conduits aussi avec l'aide de Dieu et qui les a conduits pendant 40 ans. Mais maintenant, il y a un deuil et il y a une promesse et ils sont entre les deux réalités. Et Cindy, elle parlait de quelques principes, de comment bien naviguer finalement, d'avoir un cœur entier pour Dieu dans les transitions. Et si tu n'as pas entendu le message, la semaine passée, je t'encourage cette semaine à aller écouter, voir, regarder la vidéo. Tout est disponible, je pense, sur toutes les plateformes que vous utilisez habituellement ici. Je vous encourage d'aller écouter cette parole. Et du coup, moi, je m'inscris dans la suite de ce message, dans la suite de cette série sur les traces de Josué, alors qu'ils entrent avec le peuple d'Israël dans, ils font les premiers pas dans Canaan, dans le pays promis. Et il se passe tellement de choses ici, on va regarder ensemble au premier chapitre, les quelques premiers chapitres où ils entrent ensemble dans la terre promise. Mais j'aimerais lire avec vous dans Josué 4, verset 1 et suivant. On va lire juste les quelques premiers pas que Josué et le peuple d'Israël vont faire ensemble dans la terre promise. Josué 4, verset 1. Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, retirez d'ici du milieu du Jourdain, là où les prêtres se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. » Et on va lire un petit peu plus tout à l'heure aussi. Mais ce qui se passe ici, c'est que le peuple vient de traverser le Jourdain à pied sec. Le Jourdain s'est arrêté littéralement. Ils sont passés complètement à sec. Et là, Dieu demande à Josué et au peuple de prendre des pierres du fond, du limon, si vous voulez, du fond de cette rivière et de prendre les pierres avec et de les amener un petit peu plus loin pour construire, vous allez voir tout à l'heure, un monument. J'aimerais te poser une question en commençant ce message ce matin. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'entrer dans quelque chose de nouveau? Quelque chose peut-être que tu as espéré, que tu as désiré, il y a quelque chose peut-être de l'ordre d'un rêve et de vivre un faux départ. Tu rentres dans une nouvelle saison, tu rentres dans quelque chose de nouveau, mais tu vis comme un ralentissement alors que tu entres dans cette nouvelle saison. Pour toi, peut-être c'est un nouveau projet dans lequel tu t'as économisé depuis longtemps et enfin tu entres dans ça. Peut-être que pour toi, c'est un nouveau travail, une nouvelle saison, un nouveau job. Peut-être tu passes des études à un travail, etc. Puis tu rentres dans une nouvelle saison de ta vie et tu entres dans cette saison-là. Ou alors peut-être que tu rentres dans une saison, nouvelle saison au niveau familial, au niveau du couple relationnel, etc. Et tu vis ces choses-là, tu espérais ces choses-là depuis longtemps, mais alors que tu fais les premiers pas dans cette nouvelle saison-là, tu réalises qu'il y a comme un ralentissement. Il y a comme quelque chose qui doit se passer avant d'entrer réellement, pleinement dans ce que tu avais imaginé. Je me rappelle mes tout premiers pas en tant que jeune diplômé, j'avais fait l'école d'architecture, puis j'avais fait plein de petits jobs étudiants, etc., puis de travail difficile, etc. S'il y en a qui en ce moment ont travail étudiant, paix sur vous, compassion sur vous. Moi, je sais ce que c'est. Pendant des années, j'ai fait ça, petit job à côté des études, etc., à travailler tard le soir et tout. Et là, enfin, j'ai terminé mes études. Enfin, j'entre dans ma vie professionnelle. Et puis, j'y vais avec... J'étais fraîchement diplômé, avec fierté, etc. Je vais enfin avoir un job digne de ce nom. Je vais enfin être regardé un petit peu avec respect, etc. Et puis, j'arrive dans ce job. J'étais prêt à travailler, j'étais prêt à dessiner, j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait, planifier, planifier, faire des budgets, bâtir, etc. C'est le job d'un architecte. J'arrive dans ce bureau-là, puis je me réjouissais tellement, j'avais tellement d'anticipation. J'arrive dans le bureau, là, il y a plusieurs personnes qui sont là, et tout le monde semble surpris que j'arrive. Pourtant, c'est eux qui m'avaient donné ce rendez-vous, c'était eux qui m'avaient dit « tu commences ce jour-là ». Pourtant, tout le monde semblait être étonné que j'arrive. Et j'ai compris lorsque la secrétaire a commencé à s'agiter dans tous les sens, puis à faire un petit bout de place d'un petit bureau, elle a ouvert un ordinateur portable comme ça, j'ai compris qu'ils n'avaient pas du tout planifié que j'arrive ce jour-là. Moi, j'étais prêt, eux, ils n'étaient pas prêts. Moi, j'étais prêt et c'était un faux départ dans ma nouvelle vie. Voilà un petit peu, petite confession ce matin ou petite thérapie avec vous. Nouvelle saison, faux départ. Peut-être toi, tu as vécu quelque chose de ce type-là aussi dans ta vie. Quand Josué et tout le peuple traversent le Jourdain, ils entrent enfin dans la terre promise, ils entrent dans la promesse. Il y a tellement d'excitation, il y a tellement d'anticipation et il y a comme un ralentissement. Il y a comme quelque chose qui va se passer. Vous allez voir dans les premiers chapitres de Josué, il y a comme un ralentissement. Il y a plein de choses qui se succèdent. Dieu demande plusieurs choses à Josué et au peuple qui vont ralentir la conquête, ralentir l'entrée dans la terre promise. Au moment où le peuple sort du Jourdain, tout avait été asséché, etc. Ils portent des pierres et laissez-moi vous dire qu'ils doivent porter. Il y a 12 hommes qui doivent porter des pierres lourdes sur 8 kilomètres. Il y a 8 kilomètres qui séparent le Jourdain de Gilgal. Donc 8 kilomètres avec 12 hommes et des pierres lourdes, etc. Ils doivent aller là-bas avec ces pierres. Il y a un ralentissement. Maintenant, Dieu demande ces choses-là pour une bonne raison, on va le voir tout à l'heure. Mais je crois que Josué et les autres ont pu percevoir ce que Dieu leur demande comme un ralentissement, comme un faux départ dans la conquête. Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est l'état d'esprit dans lequel Josué se trouve lorsqu'il entre, lorsqu'il met ses premiers pieds, ses premiers pas dans la terre promise. Il était pressé de commencer la conquête. Josué avait connu l'esclavage d'Égypte quand il était jeune. On sait aussi qu'il était déjà en âge de porter des armes lorsqu'il traverse la mer Rouge, etc. Donc il a vécu toute son enfance, sa jeunesse et peut-être même une partie de sa vie adulte comme esclave en Égypte. Alors lorsqu'il arrive en terre promise, il est pressé d'entrer dans la promesse. Il est pressé de commencer la conquête. Quelques temps plus tard, il va se retrouver avec 12 hommes, ils sont 11 hommes plus lui, ils sont 12, une petite escouade qui vont être envoyés dans la terre promise. Il fait partie de la petite escouade qui vont goûter en premier les fruits du pays promis. Ils vont voir de leurs propres yeux, voilà la promesse, voici le pays que Dieu nous a promis. Et il y a quelque chose de l'excitation en lui, et il se réjouit, et puis il va revenir vers le peuple d'Israël et dire « Let's go, c'est parti, on y est, Dieu nous donne ce territoire ». Et vous savez ce qui se passe? Il y a 10 autres bonhommes de l'équipe là qui ne sont pas du tout motivés de la même façon. Eux, ils ont vu d'autres choses. Ils ont vu la même chose, mais ils ne regardent pas avec les mêmes yeux de la foi. Et ils se retrouvent en fait, le peuple est découragé. Et le peuple va simplement dire non, on n'y va pas. Et pendant 40 ans, Josué, le peuple d'Israël vont tourner dans le désert à proximité du territoire promis. Ils sont là à la porte d'entrée, mais ils n'entrent pas. Josué, ce n'est même pas de sa faute. Et pendant 40 ans, il va marcher dans le désert. À la suite de Moïse, à la suite du peuple, Josué, les amis, il était pressé d'entrer dans la promesse. Lui, ça fait 40 ans qu'il est prêt. Quand les autres sont enfin prêts, lui, ça fait 40 ans qu'il est prêt. Il est pressé d'entrer dans la promesse. Non seulement ça, mais Josué, il était comme le bras droit de Moïse. Et on l'entend à plusieurs reprises, que ce soit à la fin du Deutéronome ou au début de Josué, on l'entend à plusieurs reprises Dieu dire à Josué, tu vas y aller et puis je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et ça, c'est toute une promesse, les amis. On peut lire dans Josué 1, verset 5, personne, c'est Dieu qui parle, personne ne pourra résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il y a une dimension ici, c'est immense en fait ce qui est dit à Josué, c'est que Josué avait été le bras droit de Moïse et pendant des années il avait vu comment Dieu agissait avec puissance au travers de Moïse. D'une certaine façon, il voyait ça et il disait « Ok, c'est à mon tour maintenant d'entrer dans le pas, dans les traces de Moïse ». Tu vois, Josué, il avait été là lorsque Moïse avait reçu les tables de la loi sur la montagne, 40 jours, etc. Josué était là. Lorsque Moïse rencontrait Dieu face à face dans le tabernacle, il est dit aussi dans la parole que Josué était là. Lorsque Moïse avait, vous vous rappelez, il y avait un combat avec les Amalécites, et Josué faisait partie du combat. Il avait vu Moïse prier du haut de la montagne. Il avait vu la puissance de la prière de Moïse. Donc il y a toute une promesse. Josué sait qu'il est appelé à la conquête, que Dieu est avec lui. Il est pressé d'entrer en terre promise. Je crois que Josué était en mode conquête comme jamais. Je ne sais pas si toi, tu as déjà été en mode conquête. Il y a un truc en toi qui dit, c'est mon tour à moi. C'est à mon tour de briller. C'est mon tour à moi de monter. C'est à mon tour de prendre le lead. Josué, c'était son tour à lui. Il était convaincu qu'il était né pour ça. Il était né pour ça. Moi, je ne sais pas si toi, peut-être tu portes un projet. Peut-être tu portes il y a un rêve devant tes yeux. Il y a quelque chose que tu rêves de vivre depuis peut-être des années. Tu as investi, tu travailles, tu as fait tes études pour, tu as fait tout ce que tu devais pour entrer dans cette promesse. Peut-être que c'est un projet d'entreprise. Peut-être c'est un projet d'études ou de carrière. Peut-être c'est un projet relationnel, d'une relation amoureuse, d'un mariage, etc. Puis des années, tu t'es préparé. Il y a une dimension où tu as été fidèle parce que tu voulais entrer dans la promesse que Dieu t'a faite. Peut-être que c'est le projet de fonder une famille, d'avoir des enfants, etc. Ou de partir à l'étranger, ou alors un projet de ministère, un projet artistique, un projet d'un CD. Je ne sais pas c'est quoi le projet que tu as, toi, sur le cœur. Peut-être que tu as même le sentiment, comme Josué, que le projet que tu portes, c'est Dieu qui l'a mis en toi. Il y a quelque chose qui fait qu'en toi, tu te sens, c'est Dieu qui m'a... Je suis né pour ce projet-là. Si tu as déjà ressenti, si tu as déjà eu ce sentiment-là, tu sens exactement ce que Josué sentait alors qu'il met les premiers, il fait les premiers pas en terre promise. Lui, il sait qu'il est là pour une bonne raison. Je suis mandaté par Dieu pour faire ça. Alors, vous pouvez imaginer aussi la frustration de Josué lorsque Josué entre en terre promise et qu'il se pose la question finalement, à quand la conquête? Quand est-ce que la conquête commence? Quand est-ce que ça va enfin commencer? Tu vois, Dieu demande dans un premier temps à Josué de prendre les 12 pierres, puis d'aller construire un mémorial, un monument avec les 12 pierres. Puis ça prend un certain temps quand même, 8 kilomètres, etc. Ils construisent le mémorial. Puis après ça, Dieu demande à Josué de faire déguiser des couteaux, déguiser un couteau parce qu'il est appelé à circoncire tous les hommes qui sont nés durant les 40 années dans le désert. Ah, je suis super content de parler de circoncision ce matin à l'église. Vous pouvez l'imaginer. Pour ceux qui ne savent peut-être pas de quoi il s'agit, c'est une opération qui touche aux parties intimes et qui prend quand même beaucoup de temps à guérir. Ah, c'est un certain temps. Et là, les spécialistes, les théologiens, les spécialistes, les gens qui sont vraiment concernés par la question de la circoncision, pensent qu'il y avait plusieurs centaines de milliers d'hommes qui étaient concernés par cette opération délicate. On parle d'un certain temps, on parle d'un certain délai quand même. Nous, on lit ça, puis ça nous semble bizarre parce que ce n'est pas forcément dans nos coutumes, etc. Pour Josué, ce n'était pas du tout bizarre, ça faisait partie de la promesse, ça faisait partie de l'alliance, c'était un signe de l'alliance. Mais pour Josué, ce n'était peut-être pas bizarre, mais c'était vraiment encore un moyen de ralentir la conquête. Comment ça se fait que j'entre pas? Comment ça se fait que ça prend autant de temps? Comment ça se fait que je suis aux portes d'entrer dans la promesse, mais ça prend tellement de temps d'entrer réellement? À quand commence la conquête? La conquête, ça commence quand, au juste? Et pour ceux peut-être qui ont lu Josué ou qui sont en train de le lire en ce moment, là, je viens de vous décrire, on est au chapitre 5. Moitié du chapitre 5, ça fait 5 chapitres que Josué est prêt là. Lui, ça fait 40 ans en réalité qu'il est prêt. Mais ça fait 5 chapitres que Josué est prêt, il est prêt à entrer, mais il y a un truc qui ralentit. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Tu vois, tout ce que Dieu a demandé à Josué était bon. Tout était bon. D'une certaine manière, toutes les choses qu'il a demandé à Josué permettaient d'inscrire Josué et cette génération-là dans toutes les générations aussi du peuple de Dieu. Hein, en construisant ce monument, ils allaient laisser un héritage pour la prochaine génération. En faisant circoncire, en célébrant la Pâque, parce qu'encore il y a la Pâque juste après. Il faut s'imaginer que non seulement il y a la circoncision, mais Dieu demande encore de faire la Pâque. La Pâque, c'est un repas immense, un repas qui demande beaucoup de préparation. Et là, on parle de centaines de milliers de personnes à nourrir, un gros repas. Donc il y a la Pâque, il y a la circoncision, et ces choses-là permettaient de commémorer. l'œuvre de Dieu dans les générations passées. D'une certaine manière, ce qui se passe là est très important parce que Josué et le peuple s'inscrivent dans la grande histoire de Dieu, dans le grand projet de Dieu, dans les différentes générations que Dieu avait appointées pour entrer dans ce projet-là. Il y a un message ici pour nous et un message tout en entier, on pourrait rester là-dedans, mais d'une certaine façon, il fallait que Josué et le peuple comprennent que la conquête du pays promis, ça ne venait pas d'eux seulement. Il y avait des gens qui avaient travaillé avant eux et il y aura des gens qui vont travailler après eux. Et d'une certaine façon, toi, tu as besoin de comprendre, moi, j'ai besoin de comprendre que ce que Dieu nous appelle à faire et à vivre, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Laisse-moi te dire ceci, tu n'es jamais béni pour toi-même, tu es toujours béni pour bénir. Tu es toujours appelé à être un canal de bénédiction. La bénédiction est passée de la génération qui était avant toi et elle passera à la génération qui passe après toi. Et ça, c'est une parole pour vous aussi, hommes, les amis. Vous avez plein d'enfants au milieu de vous et c'est magnifique. Vous avez quelque chose à laisser à la prochaine génération. Vous avez quelque chose à faire pour la prochaine génération de ceux qui vont s'asseoir ici, de ceux qui vont s'asseoir aussi partout où le Seigneur vous donnera d'aller. Parce que vous êtes en train de bâtir quelque chose qui n'est pas seulement pour vous-même, pas seulement pour votre bénédiction à vous. La bénédiction, elle est aussi pour ceux qui vont vous suivre. Et cette bénédiction-là, elle vient aussi de ceux et celles qui ont bâti avant vous. Ah, il y en a, vous êtes assis ici depuis peut-être quelques mois. J'ai entendu quelqu'un, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, qui est assis ici depuis à peu près 2 ans, qui commence déjà à servir et c'est magnifique. Mais avant ça, il y avait Yves et il y avait Janet. Avant Yves et il y avait Janet, il y avait encore d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes qui travaillaient à l'œuvre de Dieu. Vous, vous êtes inscrits dans la grande histoire de Dieu. Un canal de bénédiction pour ceux qui vont vous suivre aussi. Amen. Alors les amis, cette histoire nous met face, je crois, à une réalité que nous allons tous vivre tôt ou tard. Toi, Josué est là, il est en terre promise, et ce qu'il a toujours rêvé de vivre d'une certaine façon. Et maintenant qu'il est là, les jours passent, et il semble que la conquête a de la peine à démarrer. Tout est prêt, il n'a jamais été aussi prêt que ça, mais il semble qu'il y a comme un délai. Une fois de plus, c'est comme si c'est comme une histoire qui parle de notre histoire à nous. D'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, ça sera notre réalité à chacun d'entre nous. Quand tu es enfin entré dans la promesse, dans un projet, peut-être que ça va être ton cas à toi aussi, que tu vas entrer dans un projet, il y a un projet que Dieu a pour toi, et puis tu es en train petit à petit d'y entrer. Et en fait, lorsque tu entres dans ça, tu réalises qu'en fait, ça prend beaucoup plus de temps que ce que tu avais imaginé. Ou ça ressemble peut-être pas avec ce que tu avais imaginé dans un premier temps. Peut-être que c'est beaucoup plus frustrant que ce que tu avais imaginé. Peut-être que tu imaginais que ça allait aller beaucoup plus vite que ce que c'est en train de vivre en ce moment. D'une certaine façon, cette histoire nous pose la question à nous, à chacun d'entre nous. Est-ce que tes yeux et ton cœur sont fixés sur la promesse? Ou est-ce que ton cœur, tes yeux sont fixés sur le Dieu de la promesse? La question qui se pose à chacun d'entre nous lorsqu'on rentre dans une saison comme celle-ci, il y a comme un délai. Et peut-être plus important encore, est-ce que ta joie, est-ce que ta paix, est-ce que ta foi, est-ce que même ton identité est basée et fixée sur ce que Dieu t'a promis ou est-ce qu'elle est fixée sur le Dieu de la promesse? Et ça, c'est une question qu'on doit se poser à chacun d'entre nous parce que ça va arriver tôt ou tard, ça t'est peut-être jamais encore arrivé. Mais peut-être que tu vas entrer dans une saison de ta vie, dans un projet, Dieu a quelque chose pour toi. Et alors que tu entres là-dedans, il y a de l'excitation, mais les choses ne se passent pas forcément de la manière dont tu avais imaginé. Et comment tu vas gérer la frustration? Comment tu vas gérer l'attente? Comment tu vas gérer le délai de la conquête? Cette question, elle est extrêmement importante. Tout à l'heure, je vous le disais, je suis pasteur, moi, à Genève, une communauté, ça fait à peu près 3 ans maintenant que je suis pasteur de cette communauté-là. Puis je vous ouvre un peu mon cœur ce matin, mais pour vous dire simplement que moi, ça fait plus de 15 ans, en fait, qu'il y a sur mon cœur ce truc-là de je veux servir le Seigneur. Puis il y a un appel sur ma vie, je le sens, Dieu, il y a un projet pour moi, j'ai quelque chose à jouer. Je ne pensais pas que c'était pour être pasteur ou comme ça, mais je pensais que j'avais un rôle à jouer. Dans l'œuvre de Dieu, puis il y avait quelque chose en moi qui était tiré par ça, attiré par ça. Je me suis formé, j'ai travaillé pour, on a fait ce qu'il fallait, et on a fait des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Et d'une certaine façon, c'était un peu l'aboutissement. 3 ans en arrière, je me rappelle, il y avait Yves, il y avait Janet qui était là aussi, nos amis étaient là, et plusieurs ont mis la main sur nous, nous bénissant pour démarrer, pour travailler, pour s'inscrire dans l'œuvre de Dieu. Et alors que je commençais, j'étais convaincu, laissez-moi vous dire, j'étais convaincu que Dieu m'avait placé là pour une bonne raison. Que Dieu m'a placé là pour faire quelque chose avec lui. Et si je parle au passé, c'est parce que quelques mois après, Je dirais quelques semaines après. Allez, quelques jours après. Non, quand même. Mais quelques temps après, j'ai commencé à réaliser, ok, j'ai mis mes premiers pieds, j'ai mis les premiers pieds dans la promesse. J'ai l'impression que Dieu m'a appelé à ça. Je crois que c'est mon rôle. Mais en fait, il y a quelque chose en moi qui dit, mais à quand la conquête? À quand les promesses s'accomplissent? C'est quand que le beau film va s'accomplir comme j'avais imaginé? Et vous savez quoi? Le découragement peut venir facilement dans ces moments-là. Puis on se pose des questions, puis on se dit, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que vraiment j'ai entendu? Est-ce que Dieu, t'avais vraiment ça pour moi? Puis d'une certaine façon, peut-être ce matin, toi aussi, t'es entré dans une saison. Peut-être que t'as rêvé pendant des années d'avoir un enfant, d'avoir des enfants, et en fait, c'est beaucoup plus dur que ce que t'avais jamais imaginé. Peut-être que t'es entré dans un mariage, ça faisait des années, tu t'étais gardé, etc. Puis maintenant, t'es dans le mariage, et c'est tellement compliqué de vivre avec lui, là. Pourquoi? Pourquoi c'est si dur? Peut-être que ça fait longtemps que t'envisages de travailler dans ce domaine-là, d'aller dans ce projet-là. Peut-être que t'as pendant des années pratiqué tel instrument, etc. Puis c'était dur d'arriver jusque-là. Mais comment ça se fait que c'est si difficile? Maintenant que je mets enfin les pieds dans la promesse. Maintenant que je suis enfin arrivé là où je pensais que Dieu m'avait amené. Et d'une certaine façon, tu peux te poser la même question que Josué. À quand la conquête? Ça commence quand tout ça? Pourquoi c'est si difficile? Dans mon parcours à moi, dans les 3 ans que j'ai vécu, etc., j'ai découvert 2 pépites, 2 choses que j'aimerais partager avec vous rapidement. 2 choses extraordinaires dans mon parcours. En 3 ans, j'ai appris à faire dépendre ma joie et ma paix de Dieu, de la présence de Dieu plutôt que des promesses de Dieu. Ta paix, ta joie doit dépendre de la présence de Dieu plutôt que l'accomplissement de ses promesses. Il faut que tu sois stable là-dedans, tu sois stable dans la présence de Dieu. Parce que les projets, les promesses, ça passe, c'est compliqué, c'est un défi, c'est un combat. Mais la présence de Dieu est stable. La deuxième chose, c'est que j'ai appris que Dieu utilise les délais pour me transformer, pour m'élargir, pour donner la capacité finalement à ce que mon cœur soit entier pour lui. Qu'il n'y ait absolument rien qui soit retenu dans mon cœur pour lui. J'aimerais te dire, des fois, il y a des délais dans ta vie. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi c'est si difficile dans ce projet que Dieu a mis sur ton cœur. Mais en fait, Dieu est en train de t'élargir. Il est en train de te faire grandir. J'aimerais dire ceci, si tu ne vois pas de changement à l'extérieur de toi, autour de toi et dans ton contexte, c'est parce que Dieu travaille en toi. Il est en train de t'élargir, toi, de te faire grandir, toi. Ça commence par toi. Puis il y a quelque chose d'extrêmement important ici, c'est que ton cœur a besoin d'être élargi pour être entier pour Dieu. Entier pour Dieu. Moi, je crois que c'est ce que Josué a expérimenté. Et j'aimerais lire avec vous la fin du chapitre 5. C'est le dernier passage de la matinée, mais la fin du chapitre 5, où Josué va faire la rencontre la plus bizarre de sa vie. Et il va faire aussi la rencontre la plus importante de toute sa vie. La plus significative de toute sa vie. On va lire dans Josué 5, versets 13 à 15. Josué se trouvait près de Jéricho. Il vit soudain un individu qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?»« Non, lui répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres ?» Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Et Josué obéit. Amen. La rencontre la plus bizarre et la rencontre la plus importante de toute la vie de Josué. C'est un moment qui ressemble à la rencontre de Dieu avec Moïse. Une rencontre près du buisson ardent. Et Josué est seul. Il a laissé son armée derrière. Ils sont en train de guérir. Vous vous rappelez toute l'opération, etc. Ils sont là. Il est là tout seul. Et il est proche de la muraille de Jéricho. Jéricho, c'est une ville imprenable. Vous allez en entendre parler la semaine prochaine. Mais ville imprenable. Et il est proche de cette muraille-là. Et il dit, mais c'est quand que ça commence la conquête, pour vrai? J'attends depuis tellement longtemps. Et on est là, on est au pied. Et puis tout semble m'arrêter. Et il y a quelque chose qui se passe, il fait une rencontre. Moi, je ne sais pas si l'homme qui vient à lui, il a reconnu que c'était déjà l'ange de l'Éternel, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il s'est senti menacé. Il y a quand même un homme qui s'avance vers lui avec une épée dégainée. Je ne sais pas à quelle vitesse il allait vers lui. Mais quand tu as un soldat armé, et que toi tu es tout seul dans la forêt, etc., tu te poses quelques questions quand même. Et il lui pose cette question, est-ce que tu es avec moi ou tu es contre moi? Est-ce que tu fais partie des nôtres ou est-ce que tu es avec eux? Est-ce que tu es de nos ennemis ou tu es de nos alliés? Et Dieu va, et l'ange va répondre cette phrase tellement surprenante. Il va répondre simplement, non. Ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas avec eux, je ne suis pas avec toi. Je ne suis ni allié ni ennemi. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Ben, j'ai vu que tu venais. J'ai eu peur. Ça fait peur. Et je viens maintenant. Et moi, je crois que c'est la parole la plus puissante que Josué a entendue de toute sa vie. Je crois aussi que cette simple phrase, Dieu a la capacité, c'est un potentiel extraordinaire qui peut révolutionner nos vies aujourd'hui. Voici ce que Josué a entendu. La première chose, la conquête de Canaan, c'est son combat. La conquête de Canaan, ce n'est pas mon combat, c'est son combat. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, ce n'est pas toi. Je suis celui qui combat pour la promesse, ce n'est pas toi. Je suis celui qui va donner la victoire, ce n'est pas toi. C'est moi qui accomplis les plans de l'Éternel et pas toi. C'est moi qui suis venu le faire. En d'autres mots, Dieu est le premier acteur de l'accomplissement de ce qu'il a promis. Ce que Dieu a promis, laisse-moi te dire, il est pleinement engagé, engagé profondément, passionnément engagé pour accomplir ce que sa bouche a déclaré. Si Dieu a déclaré quelque chose sur ta vie, la chose va s'accomplir. Pas parce que toi, tu vas bosser fort, parce que Dieu va bosser fort, parce que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Ça ne dépend pas de toi. La conquête de Canaan commence, c'est le combat de l'Éternel. Et je ne sais pas si tu as reçu une promesse sur ta vie, sur ton couple, sur ton mariage, sur ta famille, mais Dieu est passionnément engagé envers toi dans cette promesse. Josué pensait qu'il était le chef de l'armée d'Israël et il est face au chef de l'armée de l'Éternel. Il comprend ici que c'est à lui de se mettre dans les rangs, que ce n'est pas à l'autre de se mettre dans ses rangs à lui. C'est à lui de se mettre dans les rangs de l'Éternel. C'est une réalisation tellement simple, extrêmement puissante, mais aussi très contre-intuitif et contre-culturel. Tu vois, parce qu'on nous dit sans cesse que c'est nous qui allons accomplir le rêve. Tu sais, d'une certaine manière, on te dit, la culture nous dit sans cesse qu'il y a des rêves, il y a des projets pour ta vie, puis tu vas y arriver, puis just do it, vas-y à fond, express yourself. Enfin, il y a tellement de choses que la culture nous dit, vas-y à fond, tu vas y arriver. Et d'une certaine manière, c'est un mensonge dans lequel on croit que c'est nous qui allons accomplir. Mais je crois qu'en tant que chrétien, nous devons réaliser que c'est Dieu qui accomplit, que c'est Dieu qui est devant, que c'est lui qui est le chef de l'armée, que s'il a ordonné quelque chose dans ta vie, c'est lui qui va être devant toi et qui va te conduire. Tim Keller a dit ceci, « L'appel à la loyauté inconditionnelle que Dieu demande provoque inévitablement une grande résistance dans le cœur de l'homme. Au plus profond du cœur humain se trouve un réflexe qui proclame « Personne ne peut me dire ce que je dois faire ». D'une certaine manière, Josué, il est comme toi, il est comme moi, on résiste à toute forme d'autorité, à toute forme de seigneurie, à toute personne qui voudrait prendre la primauté dans notre vie. Et puis, d'une certaine façon, on entend, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Invictus, le film, il y a cette phrase, il y a ce poème, en fait, c'est un poète du XXe siècle qui a écrit ceci, William Ernest Henley a dit « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. » Et Dieu dit « Pas du tout, c'est pas toi qui es au contrôle, c'est moi qui suis devant, je suis le chef, la conquête ne dépend pas de toi. La promesse ne dépend pas de toi. L'accomplissement de ce que j'ai dit va s'accomplir parce que je suis avec toi. La réussite de mon plan dans ta vie est sur mes épaules à moi. » Dieu est passionnément engagé pour accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Ça veut dire que la question de Josué n'était pas la bonne. Est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? C'est la mauvaise question. En réalité, la question, c'est pas à Dieu, est-ce que tu vas me faire réussir? Est-ce que tu vas être dans mes projets? Est-ce que tu vas m'aider? Est-ce que tu vas me favoriser dans les projets que tu as mis sur mon cœur? Non, je crois que la vraie question, la bonne question, est plutôt de savoir si toi, tu es du côté de Dieu. Si toi, tu es du côté de son projet à lui. si toi, tu rentres dans ses rangs à lui, si c'est lui le chef de l'armée, si c'est lui le chef qui est devant et qui accomplit les promesses qu'il a déclarées sur ta vie, toi et moi, notre rôle, c'est de nous mettre dans les rangs et juste de faire comme Josué. Dis-moi ce que je dois faire, je vais obéir. Dis-moi ce que je dois faire, je vais obéir. Ce qui m'amène à la deuxième chose que Josué a compris ce jour-là. La conquête de Canaan commence par le cœur de Josué. Je ne sais pas si tu avais pensé à ça. La conquête, le conquérant, le divin conquérant, le chef de l'armée de l'Éternel vient avec une épée dénudée vers Josué. Ça ressemble à une menace. Laisse-moi vous dire, c'est une menace. L'Éternel vient vers Josué et la première chose, le premier terrain qu'il va conquérir en Canaan, c'est le cœur de Josué. Il n'est pas venu premièrement pour Jéricho, il est venu premièrement pour Josué. J'aimerais te dire ceci, la promesse que Dieu a déclarée sur ta vie, il veut d'abord avoir ton cœur entier. Il veut d'abord avoir ton cœur à fond là-dedans avec lui, à fond derrière lui. Puis ensuite, t'amener dans la promesse à ses côtés. Je ne sais pas si vous avez vu ce détail-là, mais Josué n'a absolument pas raté le détail. Le chef de l'armée ne vient pas avec un drapeau blanc, il vient avec une épée dénudée. Et il vient comme le menacer. Tu vois, le cœur, dans la Bible, c'est l'organe, c'est plus qu'un organe qui pompe du sang, etc. Le cœur, dans la Bible, dans la pensée des Juifs, là, le cœur, c'est le symbole de la vie intérieure d'un homme. Le cœur, c'est le centre qui gouverne tous les domaines de ta vie. Le cœur, c'est le trône. Le cœur, c'est ce qui gouverne sur tous les aspects de ta vie. D'une certaine façon, notre cœur est comme designé comme un trône. Il y a forcément quelque chose qui va régner dessus. Peut-être c'est toi, peut-être c'est autre chose, peut-être c'est quelqu'un, peut-être c'est un projet, peut-être que c'est l'orgueil, c'est la crainte. Peut-être. Il y a plein de choses qui peuvent régner sur ton cœur. Et Dieu vient et il réclame le trône de ton cœur. Il vient, d'une certaine façon, il vient conquérir le trône de ton cœur aussi. Parce que Dieu veut siéger sur ton cœur, il veut gouverner sur ta vie. Tous les aspects de ta personnalité, sur ton caractère, sur ton identité, sur tes choix, il veut gouverner sur tout ce que tu es. Il veut gouverner sur tes rêves, sur tes projets, sur tes relations, sur tes ressources. Il veut gouverner sur toute ta vie, ton cœur entier. Il veut tout. Il veut absolument tout. Toi, la vraie question, ce n'est pas de savoir si quelque chose ou quelqu'un règne sur ton cœur. La vraie question, c'est qu'est-ce qui règne sur ton cœur? Qu'est-ce qui règne sur ton cœur en ce moment? Est-ce que c'est Dieu qui règne sur ton cœur ou est-ce que c'est autre chose? Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de place sur le trône. Il n'y a qu'une seule place. Et il y a une lutte qui s'engage pour gagner la place sur ton cœur. Il y a une lutte spirituelle qui s'est engagée depuis longtemps pour juste capturer la place du trône de ton cœur. Dieu veut ton cœur entier. Et Josué est face au chef de l'armée qui porte une épée. C'est lui qui est en charge de la conquête, mais Josué réalise que la conquête commence par son cœur à lui. Paul David Tripp a dit ceci, le plus grand combat qui guette tout homme est celui qui se trouve à l'intérieur de lui. Chaque jour, une guerre fait rage dans la domination pour la domination de votre cœur. Toutefois, votre sauveur, jaloux et armé de zèle, de son superbe amour rédempteur, ne partagera votre cœur avec personne. Il ne s'accordera aucun répit avant que votre cœur ne soit sous sa domination exclusive. Dieu veut ton cœur entier. Ton cœur entier. Je ne sais pas si... Pour nous, ce matin, ça fait un peu bizarre de parler de conquête et puis que Dieu vient conquérir nos cœurs, etc. Parce qu'on n'a pas trop l'habitude de ce genre de discours-là. Moi, je ne suis pas pour vous, mais moi, j'ai souvent entendu plutôt un message où il est notre sauveur, il vient nous sauver avec amour, il vient conquérir notre cœur avec amour. Et là, le discours est complètement différent. Dieu vient non seulement révéler comme sauveur, mais comme Seigneur aussi. Et peut-être ça vous fait bizarre et vous dites ça c'est une histoire de l'Ancien Testament. Laissez-moi vous dire, Jésus lorsqu'il est venu, il était très très clair. Le royaume s'est approché, voici le roi. Et il ne tolérera pas qu'il y ait d'autres rois sur ton cœur. À un moment donné, il va faire une parabole très très parlante dans Luc 14, verset 31. Si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Vous voyez, il y a deux rois. Il y a un roi qui a 10 000 hommes, l'autre qui a 20 000. Elle dit, si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Drapeau blanc, c'est bon. Je me rends, je capitule. Prends la place du roi. Ainsi donc, et là, Jésus s'adresse à des gens qui étaient comme nous ce matin, qui désiraient suivre Jésus. Certains suivaient Jésus depuis un certain temps, d'autres avaient le cœur pour le suivre. Il leur dit ceci, « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Tu vois, Jésus, c'est le roi qui vient conquérir ton cœur. Et d'une certaine façon, il ne tolérera pas qu'il y ait quelque chose d'autre sur le trône de ton cœur. Il faut que tu laisses tout derrière. Il faut que tu abandonnes tout ce qui gouverne ton cœur et que tu viennes à lui. Et que tu sortes le drapeau blanc devant lui. Je laisse la place. Je laisse le trône est pour toi. La place est pour toi. Je sors moi-même de mon trône. Peut-être plusieurs, vous réalisez que c'est vous qui êtes sur le trône de votre vie. Vous êtes le capitaine de votre âme. Vous devez sortir de la place du trône et laisser la place au roi. Seigneur, tu as conquis mon cœur. L'image est saisissante. Les amis, Dieu veut que nous plions le genou devant lui. Je sais, ce n'est pas un message très populaire. Ce n'est pas extrêmement motivant comme message. Laissez-moi vous dire que Dieu est le roi dont tu as vraiment besoin. Le roi que tu as toujours cherché à avoir. Celui que tu as toujours espéré un jour rencontrer. Même dans les aspirations les plus grandes et les plus profondes, tes désirs les plus immenses, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est lui. Rick Warren a dit ceci, « Dieu n'est pas intéressé à un engagement moyen, une obéissance partielle et le reste de votre temps et de votre argent. Il veut toute votre vie, non seulement les restes. » Est-ce que tu donnes les restes de ta vie à Dieu ou est-ce qu'il a ton cœur entier ? Tout ton cœur pour Dieu. Tu vois, Josué, quand il comprend ça, quand il voit que le roi veut prendre la place sur son cœur, que la conquête commence par son cœur et non pas par Jéricho, par son cœur d'abord, sa réaction est la suivante. Il se prosterne, face contre terre. Je suis ton serviteur, dis-moi ce que je dois faire. Enlève tes chaussures de tes pieds, enlève tes sandales de tes pieds. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et la dernière phrase est tellement importante. Josué obéit. La seule façon de savoir si Dieu est le roi de ton cœur, c'est si tu obéis à Dieu. Si ce qu'il te demande, c'est ta priorité dans sa vie. On va aller dans la prière et puis dans la louange dans quelques instants et j'aimerais inviter l'équipe à me rejoindre, jouer quelques notes. Mais je crois qu'il y a un appel pour chacun d'entre nous ce matin, comme Josué, de réaliser que Dieu, ben oui, il veut te donner la victoire, il veut te donner la conquête, il est là. S'il a promis quelque chose, il va l'accomplir, c'est son combat. Mais la première chose qu'il est venu conquérir, c'est ton cœur à toi, c'est ta vie à toi, c'est le trône de ton cœur. La question qui se pose à toi et moi ce matin, c'est est-ce que tu vas capituler devant Dieu ? Est-ce que tu vas laisser la place, le règne de ton cœur, le trône de ton cœur qu'il règne sur ta vie. J'aimerais t'encourager ce matin à t'offrir pleinement à Dieu. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens dans une église ou si ça fait déjà 10 ans, 15 ans que tu viens à l'église, que tu connais Jésus. Dans les deux cas, j'aimerais simplement t'encourager ce matin, alors qu'on va aller dans la louange, de t'offrir à Dieu. Mon cœur entier pour toi, Seigneur. Ma vie entière pour toi, Seigneur. Il veut être le roi pour tes combats. Il veut être le roi qui apporte la véritable paix, la véritable joie, le véritable sens d'identité que tu as toujours cherché des fois ailleurs. Il veut être le roi qui t'affranchit de tout ce qui cherche à saboter ta vie. Il veut être le roi qui combat pour tes combats à toi. Mais pour ça, il faut que tu laisses la place du trône de ton cœur. La conquête commence avec ton cœur à toi. Ce matin, place ta confiance en lui. Place juste ta confiance en lui. Mets-toi à genoux devant lui, comme Josué. Tu peux le faire physiquement, mais tu peux le faire surtout dans la posture de ton cœur. Tu peux dire, Seigneur, je laisse la place. Règne sur moi. Règne sur ma vie. Sois non seulement mon sauveur, sois aussi mon Seigneur. tout mon cœur pour toi, toute ma vie pour toi, tous les aspects de ma vie pour toi. Règne sur ma vie, règne sur mes relations. Règne, Seigneur, sur mon porte-monnaie. Règne sur mon agenda, règne sur mes priorités, règne sur mes rêves, Seigneur. Règne sur toute ma vie. Tout est pour toi. Et quelque temps, j'ai découvert une histoire que j'aimerais vous partager ce matin en terminant. L'histoire d'un roi qui a capitulé. C'est l'histoire vraie du roi qui s'appelait Édouard VIII. Un roi d'Angleterre, c'était le grand-père de la reine Élisabeth. Et c'est le roi d'Angleterre qui a eu le règne le plus court de toute l'histoire. Et en fait, à l'âge de 42 ans, il est devenu roi. Il a régné seulement 326 jours. Puis il a décidé d'abdiquer et de renoncer à son trône. Puis la raison pour laquelle il a abdiqué, il a renoncé, c'est pas parce qu'il avait peur ou parce que la charge était trop lourde ou parce qu'il était menacé par un autre roi ou quoi. Non. La raison pour laquelle il a abdiqué, c'est parce qu'il était amoureux. Amoureux d'une femme, une américaine, qui avait une vie un peu compliquée. En fait, qui avait une vie avec plein de casseroles. Et par amour pour elle, parce qu'elle, elle pouvait pas devenir la reine, il a choisi de renoncer à la couronne pour pouvoir s'attacher à elle. Et je sais que c'est une image, hein. Ça a ses limites évidemment. Mais moi, ça m'a fait penser au roi de mon cœur. Ce roi qui a abandonné sa couronne, qui a renoncé à son trône, qui a quitté son palais de gloire et qui est venu sur la terre, qui a traversé les cieux par amour pour moi, par amour pour toi. Il a renoncé à ses droits, il s'est fait serviteur de toutes et de tous dans le seul but de conquérir ton cœur. C'est pas seulement que toi tu renonces à tes droits, c'est pas seulement que toi tu fais de la place dans ton cœur pour ce Seigneur, pour ce roi. Lui l'a fait avant toi pour toi. C'est lui qui nous montre le chemin, c'est lui qui a fait le premier pas. Savons que nous sommes aimés parce qu'il nous a aimés le premier. Et ce matin, je trouve que cette image est parfaite pour nous. Ce matin, tu peux venir à Dieu. Tu peux venir à Dieu au travers de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, lui, n'a pas hésité une seconde à laisser son trône de gloire pour conquérir ton cœur à toi, mon cœur à moi. Josué se prosterna le visage contre terre. Il dit, Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et Josué obéit. Je vais vous proposer qu'on se lève à notre place, si vous avez la liberté de le faire, et de répondre à ce message par la louange. La meilleure manière de répondre à ce message, les amis, c'est d'ouvrir nos cœurs à Dieu. C'est de lui dire, sois le maître de mon cœur. Règne sur mon trône, Seigneur. Que ce soit la première fois que tu le fais ce matin, ou la millième fois que tu le fais ce matin, fais-le entièrement. Un cœur entier pour Dieu.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.